Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Vivre par quelqu'un d'autre, tel pourrait être le fil rouge de votre émission cinéma de ce mois-ci. Vivre hanté par un ascendant paternel, tel pourrait être cet autre. Avec The Place Beyond the Pines de Derek Cianfrance. Vivre grâce au corps d'un mort ou presque, tel pourrait être cet autre. Avec Réparer les vivants de Cattell, qui les verrait. Vivre d'abord de Dieu, tel est cet autre. Avec La Confession de Nicolas Boukrieff. Vivre par quelqu'un d'autre, Aliénation ou Chemin de Liberté. Le grand écran, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Toujours la voix un peu éraillée, mes excuses auprès des auditeurs. Ce n'est pas la Covid, grâce à Dieu. Autour du plateau, Louis-Marie Solaire, toujours producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, qui tient bon confinement après confinement, Louis-Marie, n'est-ce pas? Comment oui. Vous faites? Il y a les cinémas sont fermés et vous continuez à parler cinéma. Vous êtes incroyable. Hein.
Merci, c'est gentil. On arrive à s'en sortir. Enfin, j'arrive à m'en sortir avec mes complices, bien sûr. Sans eux, je ne serais rien.
Paul Dima, intervenant cinéma pour les Coteaux Païs. Bonjour.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
Il n'y a pas de retraite cinéma organisée par les Coteaux Païs pour l'instant?
Non, il y a des annulations qui se suivent et qui se reprogramment et qui se suivent encore.
Ben écoutez, il faudrait que Louis-Marie vous invite comme chroniqueur dans son émission, n'est-ce pas?
Avec plaisir.
En voilà une bonne idée. Trois films donc à l'affiche. The Place Beyond the Pines de Derek Cianfrance, donc Réparer les vivants de Cattell, qui les verrait, et donc La Confession de Nicolas Boukrieff. On va commencer par le premier, The Place Beyond the Pines, et on commence par la bande-annonce.
Mesdames et messieurs, le voici, Luc le Magnifique.
Elle est là, Romina? C'est qui, lui?
C'est ton fils. J'ai été plus d'un an sans nouvelles. T'as foutu le camp.
C'est mon fils. Ma place est près de lui. Mon père était pas là et regarde ce que je suis devenu.
Et comment tu comptes t'occuper de lui?
Pour rien au monde, je ne voudrais exercer un autre métier.
T'es brillant, tu pourrais faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu cherches, Evry? Je comprends pas.
Je cherche rien, je suis flic.
T'as un gamin? Tu veux pouvoir le faire vivre? T'as un talent, il faut que tu t'en serves. Parce que toi, avec ton talent, ça fait Shazam.
Tous ceux qui veulent rester en vie, lèvent les mains en l'air!
Ici Alpha 5, j'ai pris le suspect en cas.
Ici un 04, moteur visuel.
Dis-lui que ça vient de moi. Je suis toujours son père, j'ai le droit de lui faire des cadeaux.
Nous venons fouiller votre maison.
Pourquoi?
Nous cherchons l'argent que Luke Glanton aurait pu vous remettre.
$14,000.
C'est au héros que revient la part du lion.
Ça, c'est votre problème.
Non, c'est notre problème à nous tous, et je viens vous en parler parce que c'est mon devoir.
Je veux m'en faire deux d'un coup.
Toi, debout!
Je vais pas te laisser nous faire tomber tous les deux.
Il y a bien une solution, mais elle va pas te plaire.
The Place Beyond the Pines, donc film donc de Derek Cianfrance, vous nous le présenterez tout à l'heure peut-être, Louis-Marie. On comprend assez bien l'histoire, malgré tout, je reprécise. Luc, c'est donc le héros de ce film, c'est donc un cascadeur à moto. On ne le voit pas, mais on le devine peut-être. Il y a des bruits de moto, donc voilà, c'est un virtuose, et qui découvre à la faveur donc d'un spectacle qu'il donne, qu'il a un fils, donc d'une certaine Romina. Il y a donc l'histoire de ce père qui veut envers et contre tout faire vivre sa famille, et qui pour cela commet des braquages, et puis il croise la route d'un autre homme, qui est policier lui-même, un policier ambitieux qui s'appelle Avery. Il y a l'histoire des pères et il y a l'histoire des fils. Louis-Marie, qu'est-ce que vous diriez pour compléter le tableau?
Vous l'avez bien brossé. On peut rajouter que le film est clairement en trois parties, puisqu'il y a l'histoire des pères, vous l'avez dit, l'histoire du premier père, le cascadeur, le braqueur, le second qui est le flic qui a arrêté le premier. Ça, c'est le second volet de l'histoire. Le deuxième père, donc, et le troisième volet, c'est l'histoire des deux fils qui vont se croiser. Voilà l'architecture de ce drame que raconte Derek Cianfrance.
Comment vous qualifieriez ce film ? C'est quoi ? Un film dramatique, c'est ça ?
Oui, à la fois dramatique, polar. Il y a un peu de tout ça dans le film. Quelque chose des descriptions de l'Amérique profonde, des liens entre les hommes. Je disais thriller, polar, social. Il y a un peu tout ça dans le film.
Alors, Le Parisien parle justement d'un thriller sombre et poignant, ancré dans l'Amérique profonde. Télérama dit Direction France, donc découvert par Blue Valentine, sorti en 2010, réalise là un coup de maître. Les Cahiers du cinéma en dit aussi du bien. Louis-Marie Solaire, peut-être avant qu'on parle davantage de l'histoire, qui est Direction France ?
Oh, Direction France a réalisé, donc, vous l'avez dit, le film Blue Valentine qu'il a révélé, dans lequel il y avait déjà Ryan Gosling, qui joue dans le film dont on parle, The Place Beyond the Pines.
Et qu'il joue Luc.
Et qui joue le cascadeur à moto. Il joue pas le flic. L'autre beau gosse, parce qu'ils ont tous les deux quelque chose de magnétique, pas de la même façon, c'est Bradley Cooper, qu'on connaît bien, pour ses rôles dans Very Bad Trip. C'est les films qui l'ont révélé, les comédies, mais aussi des films dramatiques, comme celui-là. Sian France a un univers un peu similaire, un peu proche d'un autre réalisateur américain qui s'appelle James Gray. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'un cousinage dans la mise en scène et dans la façon de raconter les histoires. Alors, on peut pousser même le cousinage jusqu'au fait qu'il ait choisi une interprète de James Gray, Eva Mendes, qu'on voit dans le film, qui était dans La Nuit nous appartient, un très beau film de James Gray, là aussi, où il y avait quelque chose de compliqué dans une famille. La famille, un est un malfrat, un mafieux, et les autres sont des flics. Bon, ben, là, il y a cet homme qui veut tout faire pour élever son fils, et tout faire, c'est commettre des braquages. Et puis un autre qui va profiter du premier, c'est une façon de le dire, pour réaliser une carrière en politique. Mais il l'a mûri depuis longtemps, puisque quand on fait sa connaissance, il n'est que flic de base. Hein.
Alors peut-être du coup on complétera un tout petit peu l'histoire, on va écouter rapidement un deuxième extrait, on l'écoutera peut-être pas finalement en entier, c'est donc Luc qui se découvre père et qui renoue d'une certaine manière avec Romina, la mère.
Eh ben, il adore les pommes, mais il faut que je les mâche un peu avant.
Tu lui mâches ses pommes?
Ouais. Ça a l'air dégueu, mais ça l'est pas quand je les fais.
Et des glaces, il en a déjà mangé?
Pas encore.
Attends, tu te fous de moi?
C'est encore qu'un bébé.
Mon cul, ouais. C'est quoi cette maison, franchement? Où il n'y a même pas de glace. Pourquoi il n'y a pas de droit?
Non, ça n'a rien à voir. On lui en a jamais donné, c'est tout.
Est-ce que je pourrais?
Tu veux lui faire manger de la glace?
Ouais. Je veux qu'on fasse ensemble un truc qu'il n'avait jamais fait avant. Je le regarder goûter sa première glace, et chaque fois qu'il en remangera une pendant tout le restant de sa vie, c'est ma tronche à moi qui reverra.
Voilà, c'est l'image, c'est l'histoire, c'est une histoire de paternité, tout ça, n'est-ce pas, Paul Dima? Qu'est-ce qu'on pourrait dire autour de ce sujet, de ce film?
Alors c'est une histoire de deux trajectoires de paternité qui se croisent de façon diamétralement opposée, d'une certaine façon. Au départ, Luc, on le voit comme un cascadeur, mais qui est un peu aussi tête brûlée. C'est-à-dire qu'il est à fond sur sa machine, il est un peu trompe-la-mort. Et il découvre que dans son passage un an avant, il a eu un enfant d'une relation passagère. Et son histoire, c'est qu'il est touché par ça, et il rompt son contrat avec le cirque qui l'embauche. Il tourne dans une boule avec d'autres motards.
Il est transformé par la paternité.
Par la paternité. Et là, on l'entend bien. Ce prêt à tout fond comme la glace qu'il veut faire manger à son fils. Et il veut s'occuper de lui. Et pour s'occuper de lui, comme il ne va pas être présent, eh bien, il dit « je vais payer ». Et pour payer, il s'associe avec quelqu'un qui monte des coups avec lui pour braquer les banques.
Alors, c'est un effet de double miroir, parce que donc il y a aussi l'histoire des fils, c'était mon introduction, qui doivent vivre avec cet héritage qu'ils ne connaissent pas.
Alors, voilà, ça fait partie de la dramaturgie, c'est-à-dire que les deux fils, parce que le jeune flic qui l'arrête, qui est bien propre sur lui...
Mais racontez pas le tout, hein, mais peut-être donnez l'essentiel.
Propre sur lui et ambitieux, fait une fausse déclaration par rapport à l'arrestation de ce dévaliseur de banque. Et il l'abat. Bon, j'en dirai pas plus. Donc, il va faire une ascension politique, mais avec un remords profond d'être tiraillé dans le mensonge qu'il a donné. Et cet héritage très lourd va peser sur les deux bébés qui, 15 ans après, sont des grands ados.
Et qui se rencontrent.
Et alors, y en a un qui ne sait pas qui est son père, celui de Luc, et il y en a un autre qui ne sait pas...
qui est vraiment son père, d'une certaine manière.
Ce qu'a vraiment fait son père. Et donc, cette lacune va empoisonner leur vie. Donc, ce film pose la question... est-ce qu'il y a une reproduction systématique de ce qu'a fait la génération précédente ? Est-ce que, comme dit la Bible, les parents mangent des raisins verts et les enfants ont des dents agacées ? C'est toute la question. Qu'est-ce qui est transmis et qui est-ce qui est fermé par ce qui est dit ou pas dit du rapport intergénérationnel ? Et tous les travailleurs sociaux savent que c'est un nœud très fort de... la possibilité de se construire ou pas.
Louis-Marie Solaire, pourquoi c'est un beau film ? Il vous a un peu tapé dans l'œil, non ?
Ah oui, évidemment qu'il m'a tapé dans l'œil. Il m'a tapé dans l'œil, je le disais un peu tout à l'heure, par la façon dont Derek Cianfrance raconte son histoire, le fait de la mettre en image, par exemple, l'utilisation du fait que le personnage de Luc soit un motard, et pas n'importe quel motard, un motard de cirque, en fait. C'est un motard de cirque. C'est des motards qu'on ne voit pas rouler dans la réalité. Et il y a cette image, d'ailleurs, le film commence, si mes souvenirs sont bons, par la scène de la fameuse sphère où les motos tournent. Et il y a une forme d'allégorie, que je suis allé chercher là, mais enfin, elle n'engage que moi, c'est que ce croisement des motos n'est pas sans rappeler l'enchevêtrement des différents... des différentes voix, des différents personnages, ces enchevêtrements de vie qui ont du mal à se détacher, à trouver leur fil propre. Et puis, l'antagonisme, le fait de, je disais, raconter l'histoire, parce que quand on voit le film partir, on dit, puis il y a Ryan Gosling, on dit, ça y est, il est là, de bout en bout, il va être là. Et boum, à un moment, le film bascule, hop, il disparaît. Et il disparaît pour de bon, puisqu'il est tué par le second, par celui qui va prendre sa place, je dis sa place, dans l'histoire, qui va devenir le personnage principal. Et on passe d'un malfrat, d'un petit braqueur de banque malgré lui, hein, pour élever son fils, à un type qui a la gueule du gendre idéal, hein, et qui va se démener avec. Et puis on se rend compte que ce gendre idéal... Bah, il n'est pas mieux que le petit malfrat qui avait au moins, lui, l'ambition de vouloir faire quelque chose pour son fils. Alors, est-ce qu'on doit tout faire pour ses enfants jusqu'à braquer des banques ? Ça, la question, je vais bien me garder de donner une réponse. Toujours est-il qu'il y a cet effet de miroir et ce que portent les enfants. Et tout ça, eh ben, c'est remarquablement bien montré. Et on part de la moto, on roule. Et il y a quelque chose de comme d'une marche funèbre. Hein, on s'achemine vers quelque chose. C'est pas un film gay, non. C'est pas un film gay. C'est un film noir.
Paul Dima, pourquoi est-ce que c'est un beau film, très beau film ?
Parce que c'est un film très fort qui interroge notre regard aussi. Et la façon dont c'est filmé est très intéressante, parce qu'au départ, ce saltimbanque de la moto, c'est une tête brûlée, c'est... Voilà. Mais dès qu'il est mis devant le fait accompli, si j'ose dire, en découvrant son enfant, il y a une empathie réelle dans la façon de le filmer aussi. Il a une gueule d'ange en même temps, ce garçon. Alors, il est tatoué de partout, y compris sur le visage, mais il a une sincérité touchante et il est filmé comme tel, et mis en valeur comme tel. Il est d'une certaine façon prisonnier de son devoir volé pour assurer une paternité qu'il ne sait pas comment assumer. Et puis de l'autre côté, c'est la question du regard aussi. Ce jeune flic qui est décoré parce qu'il a fait un acte méritoire, il a tué un dangereux ennemi de l'ordre public, etc. En fait, il est foucheton. Il ment dans sa déclaration et il se porte une culpabilité, responsabilité, parce qu'il découvre que celui qu'il a tué était père, comme lui, d'un jeune enfant. Et il ne peut pas regarder son fils sans penser à celui qu'il a tué, qui ne verra plus jamais son enfant.
Et ben voilà, un beau film à voir, c'est aussi ça la paternité, hein. C'est de découvrir un jour peut-être qui on est et le fils de quel père on a été. The Place Beyond the Pines, c'est donc de Derek Cian France, la pause musicale, Louis-Marie, DJ.
Ben, on a entendu un petit peu de la musique qu'on va entendre dans l'extrait que vous avez passé, le dialogue entre
dialogue allongé, collé, serré.
Ouais, entre Luc et sa douce. Un des rares passages musicaux qui ne soit pas composé par Mike Patton, qui est à l'origine de la bande originale du film. Mais les bouts de musique qu'on entend en dehors de cette bande originale ajoutent justement à la mise en scène. C'est ça qui est important aussi dans ce film-là, parce qu'on a quelque chose de laconique dans cette histoire, quelque chose de compliqué, de noir. Et donc là, eh ben, le réalisateur a choisi une partition d'Ennio Morricone, ça s'appelle Nina Nana per Adulteri.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission Cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse, mercredi 19h, et donc son nouveau chroniqueur, Paul Dima aussi, intervenant cinéma pour les Côtes-d'Opaïs, ces centres jésuites dans le sud-ouest. Allez, je vous charrie. Deuxième film que vous avez choisi, qu'on a choisi, Réparer les vivants. Ça dit peut-être davantage quelque chose aux auditeurs, puisqu'il se trouve que c'est aussi un roman donc, de Maëlys de Kerangal. On y reviendra. C'est donc de Catel qui y est verré. Merci de m'avoir repris. Louis-Marie, on va écouter même chose, la bande-annonce.
T'es en première aide, c'est ça?
Ouais, c'est quoi d'autre sur moi?
Je sais que t'as plein d'amis et que tu sors le soir, un peu.
Simon a eu un grave accident de la route.
Mais je comprends rien.
Quand vous le voyez, tout vous semble normal. C'est uniquement grâce aux machines que vous avez vues dans sa chambre. Mais si on arrête ces machines, son cœur s'arrêtera aussi. C'est délicat, mais il faut que j'aborde quelque chose avec vous. Cette situation permet d'envisager un don d'organes. Si cette démarche est mise en place, c'est uniquement dans le but d'aider des malades qui sont en attente d'un organe.
Vous savez ce que je vais vous dire ? Peut-être que c'est mon heure, c'est tout. Je sais pas si j'ai envie de vivre avec le cœur d'un mort. Claire, c'est votre décision. Mais un cœur, ça ne se trouve pas comme ça, vous le savez.
Au bout d'un moment, on ne pourra plus maintenir le cœur de Simon et il sera plus possible d'envisager un don.
Voilà, Réparer les vivants, donc, de Katell Kieveré. L'histoire, on l'a deviné, je la précise. Ce sont trois jeunes surfeurs, surtout un jeune homme, donc, qui, enfin, on découvre un petit peu leur vie d'adolescent. Et puis, c'est le drame, un accident. Et ce jeune homme, donc, qui s'appelle Simon, ne vit que grâce aux machines. Sa vie est donc suspendue. Il se trouve dans un hôpital, en l'occurrence, c'est l'hôpital du Havre. On demande à ses parents s'ils consentent à un don d'organes. Et au même moment, donc à Paris, une femme qui s'appelle Claire attend la greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie. Je pense que l'histoire est à peu près claire. Peut-être qu'on peut commencer par dire un mot du roman. Maëlys de Kerangal a donc écrit un roman qui s'appelle justement « Réparer les vivants » qui a été publié en janvier 2014 et qui a connu un succès certain. Paul Dima.
Oui, c'est un roman très très bien écrit. Enfin, elle a été prix Goncourt et son livre a connu un succès phénoménal. C'est un roman qui raconte l'itinéraire non seulement de ce jeune, parce que en fait sa présence est brève dans le roman et dans le film, mais l'itinéraire des parents et celui de la receveuse et tout l'accompagnement par les équipes médicales. Il n'y a pas de second rôle dans ce roman et dans ce film aussi. Le roman met peut-être plus l'accent sur les parents de ce Simon qui est dans le coma avec un électrocardiogramme plat et sur toute leur évolution pour passer de l'acceptation que leur fils est mort, 17 ans c'est difficile, et
difficile,
accepter...
Le mot est faible, oui.
Oui, c'est insupportable. Et accepter de faire don de ses organes pour que la vie continue pour quelqu'un d'autre. Dans le film, on voit assez Simon, pour dire c'est un jeune super, et il tombe amoureux de sa Juliette, et on sent que la vie s'ouvre devant lui, et il part avec ses copains avant le lever du soleil pour aller faire un corps à corps en surfant sur les vagues, et c'est une séquence extraordinaire qui nous met devant ces jeunes qui affrontent les éléments mais qui font corps avec lui et qui sont emportés par leur passion, et en revenant, eh bien, le chauffeur s'endort et accident, et ça s'arrête là pour Simon au moins.
Alors les critiques, Libération, virtuose le cinéaste l'est comme son personnage. La Croix, adapté du roman de Maëlys de Kerangal, ce très beau film émouvant, empli d'humanité, de Katell Kieveré décrit les étapes morales et chirurgicales d'une grève de cœur. Télérama, le cinéaste a la bonne idée de mettre l'accent sur la différence d'âge entre celui qui meurt et celle qui pourra vivre. Le don d'organes s'effectue à l'aveugle, indifférent à la raison et à la logique. Là, c'est descriptif, c'est pas qualificatif, pardon. Louis-Marie Soler, si vous deviez nous faire découvrir la réalisatrice
Aussi, c'est une jeune réalisatrice. Hein, ça doit être son deuxième film, premier ou deuxième film, Réparer les vivants, Catel qui est viré, a une façon de raconter les histoires bien particulière. Et là, par rapport au roman de Mélisse de Kerangal, c'était compliqué. Et elle s'en sort plutôt remarquablement bien, parce qu'elle reste, tu sais, dans l'optique du roman, à savoir qu'il n'y a pas de personnage principal, comme le disait justement Paul, parce que finalement, le personnage principal, c'est le cœur. C'est que va-t-il advenir de ce cœur ? Et tous les personnages qui gravitent autour de ce cœur, eh bien, ont quelque chose à voir avec lui. Les parents du propriétaire du cœur, la femme qui va recevoir ce cœur et ses fils, et puis entre-temps tous ceux qui vont intervenir là, à savoir l'infirmier qui s'occupe de convaincre les parents du don d'organes, le chirurgien qui va faire le prélèvement, etc. On va pas tous les passer en revue, mais ils sont tous là, et ils sont tous là sur le même plan. Et justement, ce qui fait...
Et très valorisé.
Hein. Exactement.
C'est du personnel soignant en or.
Oui, et ce qui est fort, c'est le choix des comédiens pour les interpréter. Le choix qu'a fait Catel qui est verré pour les... Ils sont tous issus d'univers cinématographique divers, parce qu'il y a Emmanuel Seigné qui joue le rôle de la mère, qu'on a vu la plupart du temps dans les films de son mari Roman Polanski. Il y a Kulchen qui joue le rôle du père. Et Kulchen, c'est la moitié de NTM. Donc, ensuite, il y a Anne Dorval et Monia Chokri qui viennent de chez Xavier Dolan. Et puis, on va continuer la liste. Il y a Tahar Rahim qui est formidable. Bouli Lanners aussi. Karim Leclou. En fait, il y a tout fait que ce film tient dans la qualité de la mise en scène et la façon de raconter cette histoire.
Allez, on va écouter un extrait pour avancer.
On voudrait savoir... on n'est pas obligé de savoir quels organes vous allez prélever et tout ça?
Non, bien sûr, on n'est absolument pas obligé. C'est vraiment votre choix.
Sinon, les personnes qui vont recevoir, on n'a pas le droit de savoir qui c'est.
Non, vous ne pourrez pas savoir, c'est anonyme.
C'est sûrement mieux comme ça.
C'est une intervention chirurgicale qui s'effectue dans les mêmes conditions qu'une opération normale. Avec la même minutie, au bloc opératoire...
Je veux pas qu'on l'abîme.
Non, si jamais vous acceptez, moi, mon rôle, c'est d'être aux côtés de Simon pendant toute l'opération. Donc, je vous garantis que son corps sera restauré avec le plus grand soin. Alors, bien sûr, il y aura une cicatrice, mais ça ne changera rien à l'aspect de son corps.
Pas ses yeux. Je veux pas qu'on prenne ses yeux.
Je vous promets qu'on ne touchera pas à ses yeux.
Alors on est d'accord.
Merci beaucoup. Et si vous avez une demande particulière, quelque chose d'important pour vous que vous voulez que je fasse, en hommage à Simon, une parole ou quelque chose, demandez-moi, je le ferai.
Voilà pour l'extrait. Peut-être faudrait-il presque passer le deuxième, hein, qui est comme en écho, qui est le dialogue entre le médecin de Claire et cette femme, donc, qui attend une greffe providentielle. Mais Paul, peut-être ça appelle un commentaire avant, entre les deux.
Oui, la façon dont le film est construit, ce film suit pas à pas les 24 heures autour de ce drame, avec les deux familles, les médecins, les personnels soignants. Et c'est assez remarquable parce que ça a la précision chirurgicale, médicale et la précision du temps aussi. C'est-à-dire qu'en peu de temps, il faut faire des choix décisifs, irréversibles. Et tout le monde est partie prenante à des niveaux différents. Les parents, comme parents, hein, accepter que le cœur de leur fils aille à quelqu'un d'autre, sans savoir à qui. Les médecins. Et on voit là le médecin qui accompagne Simon dans son opération. Et de faire, il va faire un geste magnifique au moment de l'opération. Il va lui mettre dans les oreilles, alors qu'il est mort, les écouteurs avec une musique préparée par sa copine, Juliette. Parce que il avait promis qu'il lui donnerait. C'est-à-dire qu'il y a le respect du cadavre. Il lui met les écouteurs alors qu'il est sûr qu'il n'entendra rien. Mais c'est sa façon de rendre. Et il dit aux autres, attendez, non, je dois faire quelque chose. Et vous n'avez pas le droit de commencer l'opération avant que... Et il met les écouteurs.
On va écouter un autre extrait. Donc cette fois, c'est Claire, cette femme donc, qui attend une greffe et qui discute avec son médecin.
J'imagine que c'était pas facile de quitter votre maison.
Bah, je suis obéissante.
Obéissante, c'est pas ce qui vous caractérise. Je commence à vous connaître. Bien. Ils sont pas très bons, ces derniers résultats. Depuis notre dernier rendez-vous, le cœur a continué de se dilater. Donc là, on va droit vers les complications. Et le défibrillateur risque de ne plus suffire. Bon, vous savez ce que je vais vous dire?
Oui. Je sais pas si j'ai envie de vivre avec le cœur d'un mort. Peut-être que c'est mon heure, c'est tout. Mon cœur va s'arrêter, puis... c'est la nature.
Oui. En même temps, la nature, quand une espèce est menacée d'extinction, elle provoque des mutations. Chez le poisson clown, par exemple, si la femelle meurt, le mâle change de sexe pour assurer la reproduction. Et devinez avec qui ? Ses propres fils.
C'est une belle famille.
Je crois que j'arrive encore à vous amuser. Claire, c'est votre décision. Elle vous appartient. Mais un cœur, ça ne se trouve pas comme ça, vous le savez. Il faut s'inscrire. L'attente est imprévisible. Vous réalisez que c'est votre dernière chance. À partir de maintenant, il faut que vous viviez au ralenti. Au moindre malaise, vous nous appelez. Et votre téléphone portable doit être ouvert en permanence. On est d'accord ?
Oui, on est d'accord.
Voilà pour l'extrait. Louis-Marie et Paul Dima, pourquoi c'est un beau film ? Vous direz, ça va un peu de soi hein, quand on entend tout ça. Étrange film quand même, hein, où on est suspendu entre la vie et la mort, et tout ça autour d'un cœur, c'est vrai, ça fait quand même un scénario très original.
Oui, pardon.
Ah bah voilà, pour une fois, elle en essaye, vous parlez ensemble, Louis-Marie Soler.
Non, non, simplement, c'est que Catel qui est verré, dont vous m'avez demandé quel était son passé cinématographique, je m'étais un petit peu mélangé, Réparer les vivants, c'est son troisième film. Là, dans ce film, elle trouve l'équilibre, comment dire, remarquable, je sais pas comment le qualifier, le plus délicat, peut-être, voilà, c'est le mieux, qui arrive à rendre supportable l'insupportable. Voilà, son film, c'est ça.
Paul Dima.
Je ne sais plus qui a dit que le cinéma parlant, c'est celui qui a inventé que le silence était parlant. Et on l'entend bien dans les extraits.
Et encore, j'en ai coupé des silences.
Oui, tu en as coupé des silences. Vous en avez coupé, pardon. C'est-à-dire que là, c'est nécessaire. Parce que les questions qui sont posées, on ne peut pas y répondre du tac au tac. Parce que ça a une profondeur qui oblige à prendre son souffle avant de dire oui ou de dire non. Et le silence est nécessaire pour que le chemin se fasse. Et les images traduisent très bien ça dans ce film. C'est-à-dire qu'il y a des longs plans, séquences, puis d'autres très, très courts, des périodes de transfert et choses techniques, mais quand les êtres humains sont face à leur destinée ou celle de leurs proches, eh bien il faut un autre temps, il faut 24 heures pour que la chose se fasse, parce qu'on ne peut pas faire plus vite.
La vie au cœur du silence, c'est beau ça, hein, c'est presque Pascal comme réflexion. Louis-Marie Soler, l'extrait.
La musique, c'est un extrait de la bande originale du film.
Tout simplement.
Tout simplement, oui.
Bon, et ben on va faire avec.
Ben voilà.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, autour du plateau avec nous, donc nos deux invités habituels, fidèles au poste Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission Cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse, et Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, pour ceux qui nous rejoignent. Troisième film, c'est donc La Confession de Nicolas Boukrieff. On en avait parlé en son temps, quand il était sorti. C'est un film de quand déjà, Louis-Marie Solaire ?
Il est sorti le 8 mars 2017.
2017. Allez, on écoute la bande-annonce.
Alors, il y a un nouveau prêtre en ville ? Il paraît qu'il est formidable.
Et il est comment ?
Il est jeune.
Moi, c'est surtout sa voix que j'ai appréciée.
C'est parce que vous manquez d'âme qu'il arrive à tout vous allumer comme ça, c'est tout. C'est bon, on parle pour toi. Hein.
C'est bien d'être venu.
C'est ton ennemi que je suis ici.
Vous croyez ? Il y a longtemps que vous ne vous êtes pas confessé, n'est-ce pas ?
Je ne crois pas en Dieu.
Est-ce que vous mentez quelquefois ?
La dernière fois, c'était à un soldat allemand. Un de ceux qui passent dans votre église. Ça compte ou pas, monsieur l'abbé ?
Je saurais trouver les mots.
Pour me convertir ?
C'est peut-être vous qui finirez par me faire changer d'avis.
Ça vous convient mieux ? Tête de mule ?
Qu'est-ce que vous foutez là ? Toi, qu'est-ce que tu penses du père Morin ?
Il est sympathique. Son assurance m'exaspère. Elle me donne envie de tout faire pour le déstabiliser.
Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous me parlez depuis une autre planète.
Qu'est-ce que ça peut vous faire au fond, qu'il y ait un dieu ou qu'il n'y en ait pas ?
Comment qu'est-ce que ça peut me faire ? Mais ça change tout.
Vous avez tout compris. Oh. On dira que c'est le diable qui vous a fait un croche-patte. Il va falloir qu'on passe beaucoup de temps ensemble.
Je m'en réjouis d'avance.
Et qui vous dit que c'est pas réciproque ?
Je lui parle et j'ai l'impression qu'il s'en fout, que sa tête est ailleurs.
Les Allemands ont arrêté 10 otages. On voulait fusiller sur la place.
Le père Morin ?
La confession donc de Nicolas Boukrieff. L'histoire, on l'a compris, ou presque, donc Léon Morin, c'est un jeune prêtre, plutôt beau gosse, comme dirait l'autre, qui arrive donc dans une petite ville française, c'est sous l'occupation allemande, et il y a une femme, une jeune femme communiste et athée qui s'appelle Barney, et qui, on va dire, le défier, c'est une femme qui à la fois cherche à le déstabiliser, à le séduire, et qui a un vrai questionnement existentiel, et donc va se nouer entre eux une relation. Paul Dima, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de plus pour continuer sans tout déflorer à nous présenter l'intrigue ?
Alors, l'intrigue, c'est d'abord un roman autobiographique écrit par Béatrix Beck, qui elle-même est le personnage
de Barney,
qui va être interprété à plusieurs reprises, où il m'arrive à en parler tout à l'heure, avec des successions difficiles, parce qu'il y a un film qui a vraiment beaucoup, beaucoup marqué, c'est celui de Melville en 61. Et Nicolas Boukrieff a lu le roman et il a été touché par cette histoire. Il a voulu l'adapter au cinéma. Alors, il l'a adapté en prenant des libertés. Mais son désir, c'était de le rendre accessible à un public d'aujourd'hui qui n'a pas forcément connu la situation de la guerre 39-45 et le rendre proche. C'est pour ça qu'il invente quelque chose qui n'existe pas dans le roman, c'est qu'à la fin de sa vie, la vieille dame qui est devenue
Barney
est à New York et elle demande à ce qu'un prêtre vienne la confesser. Et ce jeune prêtre vient et elle lui révèle ce qu'elle n'a jamais dit à personne. Et elle lui raconte son histoire. Et le film est un long flashback où on voit tout le cheminement et l'affrontement et le rapprochement entre Barney, qui se dit athée au départ et qui vient provoquer dans le confessionnal ce Léon Morin, qui a été dans la vie de la vraie Béatrix Beck, un prêtre, Albert Payet, à Saint-Louis de Grenoble.
Alors ça, c'est donc pour la présentation de l'intrigue. Je lis juste quelques critiques. Lacroix, la réalisation avec ses atmosphères hivernales et ses lumières intérieures soignées fait surgir des moments de grâce et porte une émotion délicate jusqu'à la dernière image. Le Figaro, Nicolas Boukrieff s'attaque efficacement à un genre inédit. Avec la confession, il raconte d'abord la naissance d'un amour et à travers les questions de religion, prêche sans doute comme dans Made in France le respect des différences. Voilà, vous nous direz ce que vous en pensez. Et j'en ai trouvé une autre, je la cite quand même si celle-là aussi, elle ne m'a pas beaucoup plu. Le Nouvel Observateur, on a compris que Nicolas Boukrieff a réussi à filmer ce qui est infilmable, l'amour absolu, débarrassé de tout ce qui l'encombre, l'abîme et le condamne. Alors Louis-Marie Solaire, vous, votre critique, vous ferez mieux que Jérôme Garcin, n'est-ce pas?
Oh non, j'ai pas cette prétention. Oui, Boukrieff, quand même, il est bon de le dire, le réalisateur, jusqu'à ce film-là, était surtout réputé pour ses films d'action. Hein. Il avait réalisé Gardien de l'Ordre en 2009, Convoyeur, film remarquable, qu'il avait réalisé en 2013. Et vous avez fait référence à Made in France, en cours d'une de vos citations. Made in France, un film sorti en 2015, mais dont la sortie a été stoppée en salle à cause de ce qui s'était passé. Le dramatique attentat parisien, parce que Made in France mettait en scène justement des terroristes qui fomentaient ce genre d'attentat. Donc là, il choisit de réadapter le livre de Béatrix Beck dont Paul a parlé, et il fallait qu'il fasse très attention parce qu'il ne pouvait pas empiéter sur l'adaptation de Melville, le film dont aussi Paul a parlé, Léon Morin prêtre, qui est sorti en 61, parce que la production n'avait pas acheté les droits. Donc il fallait bien faire attention que le film n'en soit pas un remake. Et c'est pour ça qu'il a centré plus sur le duel psychologique des deux personnages, ce duel aussi, ces assauts de verbes, hein, parce que là aussi, quand ils échangent, c'est plutôt, j'allais dire savoureux, oui, c'est savoureux. Et il a rajouté la sociologie un peu de l'ambiance du village. Hein. On l'entend aussi dans l'extrait, la bande-annonce que vous avez passée, le moment où les Allemands fusillent des otages. Pour réprimer donc un attentat.
Alors, c'est un film sur quoi ? Pour reprendre le mot, pardon de me permettre de critiquer la critique de Jérôme Garcin, mais c'est un film sur quoi ? Sur l'amour absolu ? C'est un film sur l'humanité d'un prêtre ? C'est un film sur un amour impossible ? Qu'est-ce que vous diriez, Paul ?
Alors... Le réalisateur s'en explique lui-même, il dit, et j'ai vu une interview de lui, interviewé par un prêtre d'ailleurs, il dit, mais c'est pas du tout un film sur le célibat des prêtres, parce que d'une part la question se posait pas en 39-45, hein, c'était comme ça, et c'est pas ce que j'ai voulu mettre en avant dans l'histoire du film, et qu'il ne traite pas de ça, il traite plutôt de qu'est-ce que c'est que l'amour, et qu'est-ce que c'est que... se confronter à l'autre, l'accueillir, l'écouter, faire un chemin avec lui et en le respectant.
Parce que, si je peux me permettre de vous interrompre, ce qui est un peu troublant dans le film, c'est qu'à la fois, on peut se dire rapidement que c'est un coup de cœur et c'est une romance, et en même temps, ils sont l'un pour l'autre un vrai vis-à-vis. Donc il y a aussi quelque chose de profond.
Alors, c'est profond... En même temps, par moments, ça joue un petit peu sur la limite à ne pas franchir. Et on sent qu'elle a une attirance réelle pour ce jeune prêtre. Mais en même temps, elle est... Alors, dans l'histoire du film, elle est mère d'une petite fille et épouse d'un soldat qui est prisonnier en Allemagne. Ce qui n'est pas le cas du livre. Hein, où son mari... Elle est veuve. Son mari est mort. Donc, de ce point de vue-là, elle est libre. Là... Elle attend le retour de son mari. Et le prêtre, lui, veut exercer son sacerdoce. Et il y a une joute oratoire qui s'installe entre eux. Les dialogues sont extraordinaires. Et ils veulent l'accompagner dans son cheminement en lui présentant qu'elle a bien raison de condamner l'Église qu'elle condamne parce que ce n'est pas la sienne. Il se montre étonnamment, entre guillemets, moderne, en disant « oui, vous avez raison, l'Église a été un peu accaparée par les bourgeois qui imposaient leur vision et tout, mais voilà, c'est la justice. » Voilà. Alors, ça, elle est complètement désarçonnée avec ce qu'elle imagine être la foi chrétienne. Et ça, ça va la toucher.
Alors, on avait un extrait, justement, à un moment, elle lui demande même si il a lu Marx, et puis l'ajoute oratoire avance, mais c'est justement celui qui manque. Alors, Louis-Marie, un film à voir, pourquoi ?
Paul a dit l'essentiel, mais Boukrieff, dans son souci, Nicolas Boukrieff, dans son souci d'adaptation de cette histoire, de ce roman fort, il montre en fait un roman de 52, ancien, que finalement les modes, les usages changent. Mais finalement, la puissance des sentiments, c'est la même, quelle que soit l'époque, c'est toujours pareil. Alors oui, Paul l'a expliqué, il l'a utilisé pour que le spectateur contemporain ne soit pas comprenne bien ce qui se passe, la guerre, parce que maintenant on s'en éloigne de plus en plus et c'est une réalité que les jeunes. Les jeunes spectateurs ne connaissent pas. Néanmoins, je trouve, s'il y a un reproche à faire au film qui, de bout en bout, est remarquable, c'est le choix du flashback, que je ne trouve pas judicieux. Mais néanmoins, ça a le mérite, comme le disait Paul, de situer, de nous ramener à notre époque contemporaine et que la guerre, finalement, elle n'est pas si loin.
Il y aura peut-être d'autres critiques, hein, mais si on en reste sur le choix, pourquoi c'est un film spirituel, Paul Dima ? Puisque c'était la catégorie de ce film.
Parce que le fond derrière l'ajout oratoire, c'est comment accompagner un chemin de découverte et de conversion religieuse. Parce que cette jeune militante communiste est pleine d'élan social, de justice, mais justement, ses convictions à elle lui font rejeter une Église qui est tout à fait infidèle à cet idéal de partage, de solidarité. Et ce jeune prêtre l'accueille en disant « oui, vous avez raison ». Et il la confronte à l'Évangile, et pas n'importe lequel, celui de Matthieu, où elle est touchée au cœur en disant « ce type était formidable ». Mais il n'a pas réussi, voilà ce que l'Église en a fait. Et il y a tout un accompagnement.
En l'occurrence, cet homme, ce n'est pas Matthieu, c'est Jésus.
Oui, Jésus, bien sûr, oui. Et là, elle vient le trouver un moment après, et dit, voilà, je veux devenir chrétienne, alors qu'elle a été baptisée, mais ça lui a été imposé comme ça se faisait à l'époque. Y a aussi une autre très belle... Ils font leur parcours et puis ils savent qu'il y a une attirance réciproque à laquelle qu'ils ne franchissent pas. Mais quand même, au moment du départ, quand ils vont se séparer, parce que lui va quitter la paroisse, elle lui pose la question, si vous étiez pasteur ou diacre, je ne sais plus ce qu'elle lui dit, et que vous auriez été libre, est-ce que vous m'auriez pris pour femme ? Et il lui dit oui. Et ils se séparent là-dessus.
Trois films à voir. The Place Beyond the Pines, c'est donc de Derek Cianfrance. Réparer les vivants de Catel Chiévere. Et La Confession de Nicolas Boukrieff. Un grand merci à vous. Rendez-vous le mois prochain. À la technique, Christophe Aubry. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi. Thank you.